todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana.
Jednostka ma prawo do życia, wolności i do pewności swojej osobowości.
ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സുരക്ഷിതത്തോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.
L'enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation appropriée pour lui permettre de mener une vie pleine et décente dans la dignité.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Everyone is equal in the eyes of the law and has the right to equal protection by the law.
Die Familie ist das natürliche Element und das Fundament jeder Gesellschaft und hat das Recht auf Unterstützung vom Staat und von der Gesellschaft.
Rodina je prirodzeným prvkom a fundamentom spoločnosti a má právo na ochranu štátom.
Alle Menschen wurden frei und gleich in Wahrheit und Rechte geboren. Sie zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour Jean-Marie.
Et ben voilà, on est en 2015.
Nous voici dans une nouvelle année. À tous nos auditeurs, on souhaite une très belle année 2015. Et nous souhaitons aussi, nous espérons que les droits humains vont évoluer favorablement au cours de toute cette nouvelle année.
Et être un peu mieux respectés par les différents États. Hein. Mais enfin, c'est encore loin d'être le cas et on va vous le prouver, hélas. Pas plus tard que tout de suite, en parlant d'un pays dont on a un peu oublié qu'il était victime de conflits, enfin où il se passait des choses assez épouvantables, c'est la République centrafricaine.
En effet, depuis décembre 2013, donc un an, la République centrafricaine connaît un déchaînement de violence. Pillages, viols, déplacements de population, représailles. Ce pays, déjà sinistré par de nombreux coups d'État, est le théâtre de scènes insoutenables. Malgré l'intervention de forces internationales, la haine et la peur nourrissent les massacres entre chrétiens et musulmans. En moins d'un an, environ 5000 personnes y auraient laissé leur vie, selon une enquête de l'agence Associated Press. On va faire un retour sur la spirale de cette guerre civile. Alors Jean-Marie, quand exactement situer le point de départ de cette guerre civile ?
Eh bien, on peut le situer au 5 décembre 2013, donc soit il y a un peu plus d'un an. C'est donc le point de départ de cette tragédie et l'enlisement de la Centrafrique dans le chaos. Alors, bilan de cette effroyable journée de combat à la machette et à l'arme à feu, 500 morts environ. Donc le 5 décembre 2013. Cette lutte sanglante a opposé d'un côté les ex-rebelles de la SELECA. Alors la SELECA, c'est une coalition majoritairement musulmane qui, en mars précédent, 2013, a renversé le président François Bozizé. De l'autre, les anti-Balaka, des milices d'autodéfense principalement composées de chrétiens, initialement créées pour lutter contre les bandits et les attaques de groupes armés. Alors ce jour-là, des colonnes de miliciens anti-Balaka fondent sur Bangui pour reprendre la capitale aux mains des ex-Séléka. La MISCA, c'est la mission de soutien pour la Centrafrique sous la houlette de l'Union africaine, donc cette MISCA est déployée, appuyée par les militaires français de l'opération Sangaris, du nom d'un papillon endémique. La poésie sémantique tranche avec l'horreur du terrain. Sur la route des cadavres, à la morgue de l'hôpital communautaire, d'où s'échappent les cris de désespoir des familles, les corps s'accumulent. Les équipes médicales des ONG se retrouvent submergées par l'ampleur des blessures et le nombre de morts. Dans l'enceinte de la mosquée Ali Babolo, dans le quartier PK5, le plus grand quartier musulman de Bangui, des dizaines de victimes sont alignées au sol, recouvertes par des linges et dissimulées derrière une grande bâche noire.
Mais comment expliquer ce déchaînement de violence ?
Alors les forces internationales n'interviendront officiellement que dans l'après-midi de ce 5 décembre, après avoir reçu le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais, depuis le matin, les miliciens anti-Balaka, en grande majorité des jeunes hommes, parfois tout juste sortis de l'adolescence, qui ont investi Bangui, sont décidés à mettre fin aux exactions des rebelles Séléka. Ces derniers viennent principalement du nord de la Centrafrique et sont arrivés au pouvoir grâce à l'appui de combattants du Soudan et du Tchad. Ensemble, Ils ont semé la terreur et la désolation sur l'intégralité du territoire. Voilà un peu l'origine de ces événements. Des villages entiers ont été brûlés, des familles se sont terrées en brousse comme des animaux pour échapper à la mort. Et c'est donc avec ces images en tête que les anti-Balaka comptent bien les chasser du pays. Dans un pays à grande majorité chrétienne, 80% environ de la population, les musulmans sont associés, tous les musulmans sont associés à tort aux ex-Séléka. Donc dans ce quartier du PK5, autrefois lieu de commerce, ça devient vite une enclave. Prise au piège, cette communauté est réduite à peau de chagrin. Les musulmans qui étaient à Bangui, de 130 à 145 000 début 2013, ne sont aujourd'hui que quelques milliers. Certains ont réussi à fuir, se délestant de tout signe susceptible de les associer à leur religion. D'autres sont tués quand ils tentent de sortir du quartier, vendus parfois par des chauffeurs de taxi qui les abandonnent dans des zones anti-Balaka, notamment sur la grande route menant à l'aéroport. Ils sont alors lynchés ou exécutés.
Ce conflit va durer plusieurs semaines et surtout à Bangui, la capitale.
Oui, dans les rues de Bangui, les semaines qui suivront ne seront qu'une succession d'actes de vengeance. D'insoutenables scènes de lynchage se déroulent devant les foules qui se pressent au spectacle macabre. Bientôt, le conflit gagne les campagnes, ainsi que les autres grandes villes du pays. Et surtout, il infuse au sein de la population civile, qui prend rapidement part aux violences. Bangui se scinde en deux. Le PK5, le quartier dont on parlait, se réduit à une rue principale de quelques centaines de mètres aux allures de Far West. Seuls de grands commerçants fortunés sont restés afin de ne pas laisser leurs biens à la merci des anti-Balaka ou de simples bandits qui tentent presque quotidiennement des incursions dans la zone. Car évidemment, le banditisme gagne du terrain. Les jeunes de la capitale multiplient les braquages, les agressions. Imbibés d'alcool et drogués au tramadol, un puissant anesthésiant, ils profitent du chaos ambiant pour imposer leurs lois. On est loin de l'affrontement interconfessionnel qui fut au départ une réalité. Ils s'autoproclament anti-Balaka, n'hésitant pas à se couvrir de gris-gris, à l'instar des miliciens, mais ne sont en réalité que les récupérateurs d'une situation incontrôlée.
Quel rôle ont joué dans ces événements les militaires centrafricains ?
Leurs forces sont vite dépassées. En sous-effectif, pour couvrir un vaste territoire où pas une seule région n'est épargnée par les violences, elle part au plus pressé, maîtrise ou éteint des incendies, faute de pouvoir les éviter. Le 15 septembre dernier, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, en abrégé MINUSCA, prend le relais de la force africaine MISCA, mise en cause notamment après une série d'incidents entre le contingent tchadien et la population civile qui juge ses militaires partie prenante dans ce conflit, rangés derrière la population musulmane. Dès avril 2014, Amnesty International demandait que les Nations Unies et l'Union africaine ouvrent des investigations indépendantes et impartiales sur le rôle présumé des soldats de la paix de la MISCA dans deux incidents survenus à Bangui en mars, au cours desquels des dizaines de civils ont péri.
En janvier dernier, il y a enfin une avancée politique. Et d'où est-elle venue ?
Alors en Centrafrique, où l'État, faut-il le rappeler, est absent depuis des décennies, une première avancée politique intervient en janvier, comme tu l'as dit, lorsque les États africains poussent à la démission Michel Djotodia, président, à la faveur du coup d'État de mars 2013, et accusé par la communauté internationale de passivité. Catherine Samba-Panza, présidente de transition, s'installe au pouvoir le 20 janvier. L'annonce de son élection est accueillie par des cris de joie et des coups de klaxon à Bangui. Celle que beaucoup considèrent comme, je cite, « la maman de la Centrafrique » appelle aussitôt ses enfants anti-Balaka, comme ses enfants Séléka, à déposer les armes. Le retour de la sécurité est sa priorité. Elle cherche aussi le rassemblement. Son gouvernement intègre des représentants des deux factions. À partir de mai, quelques musulmans commençaient à revenir chez eux au PK5, malheureusement pour y trouver leur maison détruite et pillée.
Alors dans ce conflit, la justice locale, quelle a été et quelle est aujourd'hui sa tâche ? Que peut-elle faire ?
L'autre volet indispensable pour espérer un apaisement est celui de la justice, bien sûr, jusqu'à présent gravement défaillante. Par exemple, les magistrats sont menacés, les moyens manquent cruellement, les prisons restent des passoires. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a ouvert en septembre dernier une enquête sur une liste d'atrocités présumées commises dans le pays par les milices armées depuis août 2012. Dans un communiqué, elle a dressé une série de crimes présumés. Je la cite. « Les informations en ma possession fournissent une base raisonnable, permettant de croire que la Seleka et les groupes anti-Balaka ont commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, notamment le meurtre, le viol, le déplacement forcé, la persécution, le pillage, les attaques contre des missions d'aide humanitaire et le fait de faire participer des enfants âgés de moins de 15 ans à des hostilités. La liste des atrocités commises est interminable. » Alors l'enquête s'annonce d'ores et déjà longue et laborieuse, même s'il ne faut pas chercher très loin pour trouver les preuves des violences et des crimes. Elle se trouve par exemple dans les cartes mémoire de l'appareil photo du journaliste Jérôme Delay, qui dit avoir vu le diable en Centrafrique. International, toujours sur FM+, pour ce dossier sur la Centrafrique que nous allons poursuivre et continuer avec toi, Marie-Thérèse. Donc, pour évoquer l'interview du responsable des recherches au programme Afrique d'Amnesty International, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un spécialiste qui s'appelle Christian Mukosa. Alors, il était de passage dans les locaux d'Amnesty et Amnesty en a profité pour l'interviewer. Donc, je vais reprendre les questions et tu joueras le rôle donc de Christian Mukosa. Voilà.
Soit.
Bon. Alors, première question. La MINUSCA, donc cette force d'intervention, peut-elle obtenir des résultats là où la force de l'Union africaine et l'opération française Sangaris n'ont que très partiellement réussi ?
Le nombre est important, mais c'est d'abord la qualité des troupes qui sera déterminante. Leur engagement, leur capacité à se rendre à temps sur les points chauds, à gagner la confiance de la population. bien déployées dans les endroits stratégiques et non pas concentrées à Bangui, 10 000 ou même 6 000 hommes peuvent remplir la mission s'ils sont mobiles et efficaces. Le plus important est d'avoir une stratégie concrète de protection. Hélas, c'était loin d'être le cas jusqu'à présent. Il m'est arrivé de voir un nombre impressionnant de militaires de la MISCA assis, oisifs, dans leur cantonnement près de l'aéroport de Bangui, alors que les gens avaient besoin de protection urgente dans les quartiers. Beaucoup de témoins ont vu des civils se faire tuer à proximité de militaires de la MISCA ou de Sangaris, qui préféraient ne pas intervenir de peur de déclencher une réaction qu'ils ne pourraient pas contrôler. Les troupes doivent être formées à ce genre de situation.
Alors justement, le format militaire de la force est-il adapté à la réalité du terrain ?
Alors, hors de Bangui et des grandes villes du pays, la MINUSCA devra faire face à des situations militaires qui exigent un équipement lourd et les tactiques d'une armée. Mais les forces internationales doivent faire face à des situations où des civils sont imbriqués dans les violences. Or, cela n'a pas de sens d'envoyer un tank contre des individus qui sont armés de machettes. Il est préférable de faire intervenir des éléments formés au maintien de l'ordre. Les policiers peuvent approcher les gens, parlementer avec eux. Ils sont en principe plus outillés pour contenir les foules, désamorcer les situations, intervenir selon les standards des droits humains. Il y a donc un problème sérieux de planification et de stratégie. La force des Nations Unies devrait s'adapter à cette situation. C'est pourquoi nous avons suggéré aux autorités centrafricaines de restaurer rapidement les forces de police avec l'appui des forces internationales.
D'autre part, des militaires camerounais et congolais ont été mis en cause dans des cas d'exécution sommaire ou de disparition. En avril, le Tchad a retiré son contingent, critiqué pour avoir tiré sur une foule qui le prenait à partie. Quelle garantie a-t-on que la MINUSCA ne commettra pas ce genre de violation ?
Alors nous avons demandé aux Nations Unies de mener des enquêtes sur les crimes de membres de la MISCA et de mettre en place un système sérieux de sélection. Les éléments qui ont commis des violations des droits humains dans leur propre pays ou en Centrafrique dans le cadre de la MISCA ne devraient pas faire partie de la MINUSCA. L'expérience montre que les forces qui ont commis des crimes dans leur propre pays ont tendance à en commettre ailleurs. Mais selon nos informations, les contingents de la MISCA ont été transférés après seulement quelques formations. Ce n'est pas suffisant. On sait qu'il est difficile pour les Nations Unies d'attirer les troupes dans un pays comme la RCA, mais cela ne doit pas être une excuse.
La lutte contre l'impunité se heurte aux négociations politiques. Peut-on attendre des progrès dans ce domaine ?
Alors, la lutte contre l'impunité nous paraît une dimension essentielle de la solution. En effet, les crises récurrentes dans ce pays sont dues à l'impunité. On forme sa petite milice, on tue des gens et on négocie son poste au gouvernement. Il n'y avait pas jusqu'à maintenant d'institutions qui fassent peur aux gens. Ni la police, ni la prison, ni l'armée. On peut espérer une évolution avec la mise en place d'un tribunal mixte composé de magistrats centrafricains et internationaux. Les Nations Unies et le gouvernement se sont entendus sur ce principe et un comité y travaille depuis le mois d'août. C'était une des recommandations de notre dernier rapport. Une justice forte et un système pénitentiaire efficace devraient avoir un pouvoir dissuasif. Par ailleurs, la Cour pénale internationale a ouvert des enquêtes, nous en avons parlé tout à l'heure. Les leaders des groupes armés ont peur désormais, car ils peuvent être arrêtés à tout moment.
Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le rapport sur la RCA, donc République Centrafricaine, qui s'appelle « Il est temps de rendre des comptes ». Donc vous allez sur le site d'Amnesty, ce rapport a été publié en juillet 2014.
Ceva, dar le dreptale tale, le dă la el la.
Amnesty International, donc sur FM+. Marie-Thérèse, on va terminer notre émission en revenant un petit peu en arrière, en 2014, parce qu'au début du mois de décembre dernier, le Sénat américain avait publié un rapport sur le programme de détention de la CIA et Amnesty souhaitait que ce rapport ne clôture pas le dossier.
Alors, la version abrégée d'un rapport consacré par une commission sénatoriale aux méthodes de torture employées dans le cadre du programme de détention secrète et d'interrogatoire des États-Unis rappelle de manière crue l'impunité qui subsiste pour de nombreuses violations consternantes des droits humains perpétrées au nom de la sécurité nationale, a déclaré Amnesty début décembre donc. Ce rapport de synthèse de la commission sénatoriale sur le renseignement, rendu public le 9 décembre, fournit de plus amples détails sur l'utilisation par l'Agence centrale du renseignement, la CIA, de simulacres de noyade, de simulacres d'exécution, de menaces sexuelles et d'autres formes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des détenus soumis à une disparition forcée. Ces actes ont été perpétrés dans le cadre du programme de restitution et de détention secrète lancé à la suite du crime contre l'humanité commis le 11 septembre 2001. Ce rapport, abrégé, donne par ailleurs des informations sur les effets des techniques d'interrogatoire et des conditions de détention sur les détenus eux-mêmes. Hallucinations, paranoïa, insomnie et tentatives d'automutilation en particulier. Ce rapport, selon Erika Guevara-Rosas, directrice du programme Amérique d'Amnesty International, je vais la citer, ce rapport fournit de nouvelles informations accablantes sur certaines des violations des droits humains autorisées par les plus hautes sphères du pouvoir aux États-Unis après le 11 septembre. En dépit de nombreux éléments connus du public depuis des années, personne n'a été traduit en justice pour avoir autorisé ou perpétré ces actes dans le cadre des programmes de la CIA.
Les enquêtes d'une portée restreinte ouvertes par le ministère américain de la Justice ont pris fin en 2012 sans que personne ne soit inculpé. De même, la destruction par la CIA de bandes vidéo de séances d'interrogatoire n'ont débouché sur aucune poursuite. L'accès à la justice pour ceux qui ont enduré des violations a été systématiquement bloqué par les autorités américaines, notamment au nom du secret d'État. Erika Guevara a déclaré encore « Les informations dont le caractère secret a été levé dans le rapport, si elles sont limitées, rappellent au monde que les États-Unis ont totalement échoué dans leur mission visant à mettre fin à l'impunité de ceux qui ont autorisé et utilisé la torture et d'autres formes de mauvais traitements. Ceci est un avertissement pour les États-Unis qui doivent révéler toute la vérité sur ces violations des droits humains, amener les auteurs présumés à rendre des comptes et garantir que les victimes obtiennent justice. Il ne s'agit pas d'une subtilité en ce qui concerne la ligne de conduite des États-Unis, mais d'une exigence du droit international. » Voilà donc ce qu'a déclaré Erika Guevara.
Les méthodes d'interrogatoire employées par la CIA incluaient des simulacres de noyade, des simulacres d'exécution, des privations de sommeil prolongées et le maintien dans des positions douloureuses. Certains de ces agissements constituent en soi des actes de torture au terme du droit international. D'autres, pris ensemble ou sur une période prolongée, s'apparenteraient à de la torture ou sont considérés comme des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tous ces actes sont absolument interdits, sans exception, et quelles que soient les circonstances. La disparition forcée est également un crime au regard du droit international. La version intégrale du rapport de la SSCI, long de quelque 6600 pages, reste classée top secret. Selon la présidente de la commission sénatoriale Diane Feinstein, le rapport contient des détails relatifs à toutes les personnes détenues sous la responsabilité de la CIA, les conditions de leur détention et la manière dont elles ont été interrogées. Amnesty International demande la publication d'une version intégrale du rapport qui soit la moins censurée possible. En particulier, aucune des informations relatives aux violations des droits humains ne doit être dissimulée.
Oui, en fait, ça fait 10%, hein, si on calcule. Donc, c'est pas beaucoup, hein. La grosse majorité est restée secrète et classifiée, comme on dit, secrète.
Non-dissible.
Ouais, oui, oui. Donc, il faut rappeler aussi que la CIA et d'autres instances américaines n'ont pas agi seules, mais ont demandé à divers partenaires autour du monde de leur apporter leur concours dans le cadre des restitutions, actes de torture et détentions secrètes de personnes que les États-Unis soupçonnaient d'implication dans les actes terroristes. Par exemple, le 24 juillet, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le gouvernement de la Pologne avait collaboré avec la CIA pour établir à Starkiej Kieszkuti une prison secrète qui est restée en service de 2002 à 2005. En 2012, la Cour européenne a statué contre la Macédoine, la déclarant complice des actes de torture et la disparition forcée d'une personne. Et d'autres pays ont travaillé avec les CIA, comme l'Italie, la Lituanie, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède, entre autres. Voilà, donc il faut rappeler que depuis 50 ans, Amnesty International se bat pour éradiquer la torture. Et cette année, l'organisation a lancé une grande campagne appelée Stop Torture, campagne mondiale, qui demande au gouvernement de véritablement mettre en place des garanties efficaces contre la torture et les autres formes de mauvais traitement. Celles-ci doivent notamment donner la possibilité aux détenus de s'entretenir dans le meilleur délai avec un avocat, leur famille ou les tribunaux, et prévoir un suivi des interrogatoires, ainsi que des évaluations indépendantes de tous les lieux de détention, des enquêtes indépendantes et efficaces en cas d'allégation de torture et de poursuites judiciaires à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis ces actes de torture. Marie-Thérèse, une bonne nouvelle quand même ?
Une bonne nouvelle par un condamné à mort qui a été innocenté. Après 9 ans passés derrière les barreaux, dont 4 dans le couloir de la mort, Manuel Vélez a été innocenté et libéré le 8 octobre dernier dans la prison de Huntsville au Texas. L'homme avait été arrêté en 2005 et condamné à mort en 2008 pour le meurtre du fils de sa petite amie âgée de 1 an. Les examens médicaux avaient pourtant apporté la preuve que les blessures de l'enfant avaient été infligées alors que lui-même travaillait sur un chantier du Tennessee à plus d'un millier de kilomètres. Nous devrions avoir honte des erreurs qui ont conduit Manuel au bord de l'exécution, a déclaré son avocat Brian Stull.
Voilà, je voudrais terminer par un message d'espoir. Vous savez qu'on en reçoit assez régulièrement. Celui-ci a été envoyé par un prisonnier d'opinion victime de torture et qui a été libéré d'une prison au Mexique. Ce monsieur s'appelle Angel Amilcar Colon Quevado, qui nous a dit « Je voudrais dire à tous ceux qui me montrent leur solidarité et sont contre la torture et la discrimination de ne pas relâcher leur vigilance ». Ben voilà, c'est ce que nous vous invitons à faire en vous rendant sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, où vous pourrez signer de nombreuses pétitions, notamment celles qui concernent la grande campagne Stop Torture. Merci à tous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.